VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Deuxième jour de la convention du Parti républicain à Cleveland dans l'Ohio. Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui. Candidat du parti à la présidentielle du 8 novembre. Le Maya de l'immobilier a promis hier soir la victoire aux républicains à cette élection à l'issue d'une première journée de convention chaotique marquée par la révolte de ses opposants. Une tentative qui a échoué. Pour le programme des activités aujourd'hui, rejoignons Idrissa Sedoudia, un de nos envoyés spéciaux sur place.
Au programme, il y a ce soir une soirée qu'ils appellent « Remettre l'Amérique au travail », une allusion à la situation économique que Donald Trump et son équipe trouvent catastrophique. Ils trouvent que la gestion Obama est catastrophique et que Hillary Clinton ne sera qu'un troisième mandat pour Barack Obama. Alors donc, malgré les progrès qui ont été accomplis depuis la grande récession de 2008, les républicains trouvent qu'on n'a pas fait assez de progrès et que Donald Trump remettra les choses sur les rails, littéralement.
Alors, quels sont les orateurs prévus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une liste de personnalités qui vont prendre la parole?
Il y a une liste et en particulier, il y aura son fils, Donald Jr., qui joue un rôle clé dans cette campagne. Il y aura aussi une sénatrice que vous connaissez très bien, Henri. Elle est de West Virginia. Et naturellement, là, le problème de l'extraction du charbon, du travail des mineurs est très crucial puisque c'est la principale source de revenus. Et naturellement, il n'a pas épargné ses critiques à Hillary Clinton qui, à un moment donné, avait tenu des propos qu'elle avait regrettés sur les emplois des mineurs qu'il faudrait supprimer.
Vous parlez bien sûr de la sénatrice de Virginie-Occidentale, Shelley Moore Capito. Parmi les autres orateurs au programme, Idrissa, il y a aussi le président de la Chambre des représentants du Congrès, le républicain Paul Ryan, le leader de la majorité républicaine au Sénat à Washington, Mitch McConnell, et deux anciens rivaux de Donald Trump dans la campagne des primaires, le docteur Ben Carson et le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Merci Idrissa, c'était bien sûr notre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Sedoudia. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest et au Mali en particulier. Des hommes armés non identifiés ont attaqué très tôt ce mardi le principal camp militaire de Nampala, localité du centre du pays, qui se trouve à 514 kilomètres de la capitale malienne. Mohamed Touré a contacté à Bamako le lieutenant-colonel Souleymane Mariga pour le point de la situation à Nampala.
Ce matin, vers le coup de 5h30, temps universel, donc des éléments armés à bord d'une au moins une trentaine de véhicules pick-up lourdement armés se sont attaqués à nos positions autour de la ville de Nampala. Donc nos forces ont réagi très énergiquement, mais au regard du nombre très élevé des assaillants, au moins les éléments ont été amenés à se réorganiser en dehors de la ville. Donc, nous avons subi malheureusement des pertes. Au moins, une dizaine de nos soldats ont péri au cours de ces affrontements.
Nous avons des
blessés.
Mais ces assaillants sont-ils toujours dans la ville de Nampala?
Pour le moment, les premières informations, nous avons indiqué qu'après les attaques qui auraient duré jusqu'à vers 7 heures, donc, il serait retiré à 45 km de la ville. Bon, nous attendons encore des précisions de nos éléments sur le terrain en vue de donner plus d'amples informations.
Les militaires ont-ils décidé une riposte ou une poursuite?
Il y a des unités qui sont dans les autres localités, dans les environs de la ville, sont en alerte maximum. Donc, les forces sont actuellement en train de se réorganiser en vue de contenir cette situation.
Et la ville de Nampala, est-elle calme maintenant?
Pour le moment, nos informations nous indiquent que les combats ont cessé. Donc, c'est la position que nos éléments tenaient, notamment au niveau de la résidence de la préfecture qui avait été saccagés et pillés par les océans. Nous n'avons pas d'autres indications qu'il y ait des combats à l'intérieur de la ville.
Le lieutenant-colonel Souleymane Maïga de l'armée malienne, joint à Bamako par Mohamed Touré.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dénoncé les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Pour le président Muhammadu Buhari, quand les dossiers ne vont pas au bout, on donne la mauvaise impression que le crime paie. Il a ajouté « Cela doit changer ». Autrement dit, il faut accélérer la cadence. La lutte contre la corruption a été l'une des priorités affichées du chef de l'État nigérian depuis son élection à la tête du Nigeria. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement alors que des soldats sous-équipés périssaient sous les balles des djihadistes dans le nord-est du pays. Ce dossier a subi des retards et renvois répétés, empêchant M. Buhari de pouvoir se vanter d'une seule condamnation depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Ses opposants l'accusent de mener une chasse aux sorcières contre l'administration de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
RDC, 10 civils ont été tués lors de nouveaux affrontements intercommunautaires dans une localité de l'est du pays, une région en proie depuis des mois de vives tensions. Nous déplorons la mort de 10 civils et des cases incendiées à Kibirizi lors des affrontements entre les habitants de cette localité dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré à l'AFP le capitaine Guillaume Djike, un des porte-parole de l'armée dans la province troublée du Nord Kivu. La société civile de Kibirizi avance, elle, un bilan de 8 morts et son président Gaston Kalkoulé accuse les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, très actives dans le territoire, d'être les auteurs de ces tueries. Selon M. Kakoulé, toutes les personnes tuées étaient de l'ethnie Nandé. Côté armée, le capitaine Djike affirme que l'armée est intervenue et a imposé le calme après des affrontements entre civils. Cameroun maintenant, 11 otages dont le maire de la ville de Lagdo dans le nord du pays ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Plus de détails avec Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Le maire de Lagdo, Mama Abakai, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures. À un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
Un groupe de soldats, ils sont du front de FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubakar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération. Mais les anciens otages expliquent que le groupe armé réclamait de l'argent avant de les libérer. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Rwanda, le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. Morgan Guiriek.
D'après Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Il faudra aussi convaincre le président Salva Kiir d'accepter le principe d'une telle force, alors qu'il a récemment affirmé ne pas vouloir un soldat étranger de plus dans son pays.
Et pour terminer, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN mettent en garde la Turquie contre toute tentative de répression généralisée après le récent coup d'État avorté. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.